Rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours à l'écoute de Idées Noires. L'émission de la coordination des groupes anarchistes, et on va attaquer sur pas mal de trucs encore.
Voilà, sur autre chose. Donc en 10 minutes, on n'aura pas le temps de tout faire comme d'habitude, mais on va quand même essayer. On va vous parler d'une affaire, voilà, qu'on avait plus ou moins ratée, mais on est retombé dessus là, par rapport à une condamnation de la SNCF. Donc il a été le 21 septembre 2015 pour avoir discriminé 842 de ses salariés en raison de leurs origines. Voilà, Guillaume Pépi, donc le président chef de la SNCF, a attendu le dernier jour pour faire appel de cette décision, pourtant très bien motivée par le Conseil des Prud'hommes de Paris. La réputation de la SNCF en termes de discrimination et de racisme n'est plus à faire. Cette entreprise publique appartient à l'État à 100%. Donc on va vous rappeler un peu cette affaire-là. La SNCF a exploité de manière éhontée les cheminots d'origine étrangère. Ces cheminots sont principalement d'origine marocaine, avec des collègues algériens et tunisiens. Ils ont été discriminés en raison de leurs origines, la SNCF jugeant que nos chibanis sont des sous-hommes, donc sous-payés, et ne bénéficiant d'aucun avantage donné aux autres cheminots. Un contrat de travail en bonne et due forme, signé au pays d'où la SNCF est venue les recruter, stipulait l'égalité de traitement et de salaire. Ces jeunes hommes, dans la force de l'âge, ont cru en la parole de la SNCF appartenant à l'État français, patrie soi-disant des droits de l'homme. En réalité, ceux-ci ont été placés sous un régime désavantageux par rapport aux autres cheminots et aux contractuels de la SNCF. Ceux-ci peuvent évoluer sur 8 qualifications. Exécution, maîtrise et garde, alors que les Chibani évoluent sur 3 qualifications seulement à l'exécution et que la majorité est restée la qualification la plus basse, avec interdiction de passer des examens et de changer de métier. À la lecture du rapport social de 2013, il est indiqué que seuls 3% des cheminots finissent leur carrière à l'exécution. Pour les Chibani de la SNCF, ce sont 100% qui finissent leur carrière là-bas. Considérés uniquement comme force de travail à l'extérieur dans les conditions les plus dures, été comme hiver, ceux-ci ne pouvaient bénéficier du régime de protection sociale attribué à leurs collègues placés dans une situation identique de travail. La retraite en fait partie, ainsi que les pensions de reversion octroyées à ceux qui sont morts au travail, et ils sont nombreux. Il y a les bons morts au travail et les autres. Les discriminations envers les Chibani de la SNCF ont été nombreuses et variées, relativement bien décrites dans la notification du jugement rendu donc le 21 septembre 2015, malgré certaines inexactitudes. En première instance, la SNCF a été condamnée par le Conseil des Prud'hommes de Paris pour discrimination selon l'origine à l'évolution de carrière et pour discrimination selon l'origine sur les droits à la retraite. Il est à noter que pour ces hommes, aucune somme n'a été attribuée au titre de préjudice moral. Une carrière de discrimination et 10 ans de procédure devant le Conseil des Prud'hommes de Paris n'atteignent pas le moral de ces victimes, peut-être n'en ont-ils pas. Il est également précisé que le jugement prononcé ne changera pas le montant de leur retraite de misère et que l'indemnisation allouée à ce titre ne porte que jusqu'à l'âge de 72 ans. L'espérance de vie en France étant de 82 ans et demi, sur quels critères s'appuient les juges pour ne leur verser que 7 ans de retraite après leur départ? Ce jugement en première instance est une victoire, certes pour les 842 Chibani de la SNCF. Il souligne que l'entreprise publique et la SNCF, appartenant donc à 100% à l'État, a bafoué donc la Convention numéro 97 de l'Organisation internationale du travail interdisant la discrimination au travail, l'article 14 de la Communauté européenne des droits de l'homme qui interdit la discrimination en raison de l'origine, la Convention bilatérale franco-marocaine de 1963 interdisant la discrimination des salariés marocains en France, le Code du travail qui interdit la discrimination en référence de l'article L1132-1 et le contrat de travail qui stipulait l'égalité de traitement et de rémunération. Ces griefs étant actés dans le jugement, Guillaume Pépi a fait appel de cette décision usant d'un redoutable cynisme, en attendant le dernier jour légal de l'appel, promettant à ses plus anciens salariés de prolonger ce long combat dont la SNCF et la France sortiront perdants. La grande majorité de ces Chibani sont français et tous leurs enfants le sont aussi. Ce combat pour la dignité représente l'équité qui anime la France à l'égard de ses citoyens de seconde zone, et comme les Chibani, leurs enfants sont encore et toujours discriminés. Derrière cet appel du jugement rendu aux Chibani, il y a Guillaume Pépi, président de la SNCF, qui discrimine et tolère le racisme dans l'entreprise publique que nous payons par nos impôts, sans avoir à rendre des comptes sur sa politique managériale discriminatoire. Il en va de la cohésion et des valeurs. Voilà. Donc pour ce petit article, voilà, qui signait l'association Droit à la différence. On va faire un petit saut maintenant, on va aller du côté des États-Unis avec deux attaques récentes. L'attaque d'un planning familial donc aux États-Unis. 3 personnes dont un policier ont été tués donc le 27 novembre dernier dans une attaque contre un centre du planning familial à Colorado Springs. dans l'ouest des États-Unis. 9 personnes, dont 5 policiers, ont par ailleurs été hospitalisées. Selon la même police, 24 personnes ont été évacuées saines et sauves après avoir été prises en otage. Le tireur, Robert Lewis Deer, 57 ans, aurait déclaré aux enquêteurs qu'il ne voulait plus de bébés en morceaux. Ces propos pourraient être une allusion aux avortements pratiqués dans le centre ou aux accusations à l'encontre de la clinique selon laquelle elle fournirait des éléments fœtaux à la recherche médicale. Donc voilà, le suspect était armé d'un fusil d'épaule et avait placé des appareils dans le bâtiment, laissant entendre qu'il pourrait s'agir d'explosifs qui ont passé plusieurs heures à sécuriser le bâtiment. L'attaque s'est terminée vendredi soir après plus de 5 heures d'échange de tirs avec les forces de l'ordre. Et une autre attaque, cette fois-ci c'était un peu avant, c'était le 23 novembre à Minneapolis. Un suprémaciste blanc a ouvert le feu sur un groupe de manifestants pour les droits des minorités aux États-Unis d'Amérique, blessant plusieurs d'entre eux. Plus tôt, voilà, un groupe de suprémacistes blancs était venu provoquer le cortège de manifestants. C'est au moment où certains d'entre eux ont commencé à les écarter du reste de la manifestation que l'un d'eux a ouvert le feu. Voilà, au moins 5 personnes ont été blessées. Le lendemain, plusieurs milliers de manifestants étaient présents au rassemblement quotidien du mouvement que la presse appelle Black Lives Matter. C'est le nom, voilà, que donnent les médias au mouvement en cours aux États-Unis contre les violences policières ciblant particulièrement les minorités. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis le 11 septembre, voilà, 2001, il y a eu plus de morts dues à des suprémacistes blancs qu'aux djihadistes sur le sol américain. Voilà, c'est pas la première et ce sera malheureusement pas la dernière fois, notamment avec la vente d'armes libres. Voilà, on verra si on en vient là en France, hein, vu que tout le monde peut s'équiper, que les policiers peuvent avoir leur arme même en dehors de leur service, que les municipaux vont être équipés aussi, ça va être formidable. On va faire un petit tour, alors assez rapide, et désolé parce qu'on voulait peut-être faire un peu plus, mais sur la Turquie, vous avez sûrement appris aussi l'assassinat, voilà, du président du barreau. Voilà, depuis la victoire frauduleuse de l'AKP au Parlement le 1er novembre, les crimes contre le peuple se multiplient, assassinats dans les villes occupées, les censures et arrestations de journalistes, la fermeture des médias, les arrestations et les meurtres de militants et militantes révolutionnaires et syndicalistes et les attaques contre les Kurdes. Aujourd'hui, donc, c'est l'opposant à Erdogan, le président du barreau de Diyarbakir, qui a été assassiné. Voilà, d'un tir de police pendant une déclaration de presse dans le quartier de Sur, voilà, dans cette ville-là. Voilà, donc ce meurtre a été confirmé, donc son corps a été transporté à l'hôpital d'État. Il y a eu de grosses manifestations, vous le pensez bien. Donc cette information est issue du blog, enfin du site Nouvelle Turquie, donc vous pouvez retrouver ça. Et on voulait aussi faire un petit tour, savoir ce qui s'était passé le 25 novembre, donc c'était la journée internationale contre les violences faites aux femmes, et à cette occasion, de nombreuses mobilisations ont eu lieu à travers toute la Turquie, dans un pays où le nombre de femmes tuées par leur mari pour les 7 premiers mois de l'année 2015 s'élevait déjà à 154. Les femmes s'organisent sur tous les plans pour résister. À Istanbul, à l'appel de la plateforme du 25 novembre, des centaines de femmes se sont retrouvées place Taksim au cri de « Nous résistons à la violence d'État masculine, nous défendons notre droit à vivre ». Les femmes, parmi lesquelles se trouvaient les militantes du Yeni Demokrat Kadin, ont défilé du tunnel de Taksim au lycée Galatasaray en scandant « Nous ne nous taisons pas, nous n'avons pas peur, nous ne nous soumettons pas. L'homme frappe, l'État le défend. Les occupants de Nusaybin sont les meurtriers d'Osekan. Mille saluts aux femmes qui résistent au Kurdistan. Que les violeurs aient peur de nous. L'autodéfense est un droit. Nous ne voulons pas d'un amour qui tue ». Voilà, elles ont porté des banderoles dénonçant les violences de l'État masculin, le harcèlement et le soutien apporté par le système judiciaire masculin aux violeurs et aux meurtriers de femmes. Place Galatasaray, des déclarations ont été faites au nom de la plateforme, donc du 25 novembre, en kurde et en turc. Nargisem commençant son discours en déclarant « Nous sommes dans les rues pour défendre nos vies face aux violences masculines », a poursuivi en soulignant qu'en Turquie, 5 femmes sont massacrées chaque jour et que les décisions des procès ne font que légitimer ces assassinats. Rappelant les femmes tuées, Sen déclare « Nous sommes Nevin, Silem, Yasemin, nous sommes Ekinvan, nous sommes celles qui ont utilisé leur droit d'autodéfense ». Elle a continué en annonçant qu'après le départ des forces spéciales des villes sous occupation au Kurdistan, des messages sexistes et criminels ont été découverts sur les murs. Elle a fini par dire « Contre les violences des hommes et de l'État, nous allons continuer à occuper les rues et à lutter ». Suite aux déclarations, un appel a été fait pour se rendre au procès, donc Yasemin Sakal, désolé si je prononce mal, qui se tiendra le mardi 1er décembre, donc qui s'est tenu hier, donc on n'a pas encore le résultat. La 13e cour pénale, le 10 juillet 2014, donc cette jeune femme avait dû tuer son mari pour se protéger des violences systématiques et quotidiennes dont elle était victime. Elle est à présent en prison avec son enfant. Dans le procès donc à venir, le procureur demande une condamnation à vie. Et pour terminer, les militants du Yeni Demokrat Kadin ont lancé des slogans attirant l'attention sur les 12 jours d'occupation subis par les habitants et habitantes de Nusaybin, Kurdistan de Turquie. Voilà, la manifestation s'est terminée dans les danses et les slogans. Donc voilà pour ce petit tour en Turquie. On verra pour la semaine prochaine, on voulait aussi faire un petit tour en Argentine et au Rwanda, mais on fera ça du coup tranquillement la semaine prochaine. On vous rappelle donc que demain, jeudi 3 décembre, pour le moment, Rassemblement maintenu à 18h place des Terreaux en soutien à toutes et à tous et à tous les migrants. Voilà, tenez-vous au courant un petit peu sur Rebellion pour savoir ce qui s'y passe. Voilà, peut-être une interdiction comme le samedi 21 novembre dernier. On en saura plus demain vers midi. Donc tenez-vous au courant comme ça. Autrement, bah rendez-vous demain 18h si c'est maintenu, bien évidemment. Donc voilà, puis vous pouvez écouter l'émission sur le blog des émissions. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Idée Noire. Vous pouvez nous retrouver lors des permanences, hein, mercredi et samedi à la Plume Noire, au 8 rue Diderot. Et voilà, sur notre site, la page Facebook, etc., etc.
Et on va laisser le micro à la lumière du frigo
qui s'installe,
qui est en train de s'installer et qui est prêt, même d'ailleurs, le camarade derrière. Et ben, on va vous laisser un moment avec notre excellent générique. Salut à toutes et à tous et à mercredi.
Ciao.